Il n'y a pas d'équilibre, c'est un mythe complet. Tout ce qu'il y a, c'est à chaque moment un choix de qu'est-ce qui est le plus important.
J'ai reçu Anne-Laure Lequin pour une conversation sur l'entrepreneuriat et la productivité.
Il est complètement possible d'être ambitieux tout en prenant soin de sa santé mentale.
Et niveau ambition, Anne-Laure est bien placée pour parler. En 2019, elle démarre son entreprise Nest Labs avec le challenge d'écrire 100 articles en 100 jours. Deux ans plus tard, Anne-Laure se lance dans un doctorat en neurosciences. Et c'est pas fini. En parallèle de son business et de son doctorat, elle écrit actuellement son premier livre sur la productivité en pleine conscience. Et tout ça en anglais alors qu'elle est francophone.
Physiciste ?
Physicien ?
Physicien ?
Physiciste ?
Dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi se laisser mourir est une compétence.
C'est quelque chose que je trouve très inspirant et quelque chose que j'essaye de suivre dans ma propre vie.
Un outil concret pour améliorer vos relations au travail.
Nous, on le fait dans mon équipe et c'est vraiment juste un PowerPoint.
Comment le revenu universel pourrait bouleverser notre société?
C'est un revenu qui est suffisant juste pour vivre, en fait. Et la plupart des gens, ils veulent plus que ça.
Et combien d'heures travailler pour être productif dans un métier créatif?
Il y avait plein qui bossaient beaucoup plus que ça, mais ils n'étaient pas du tout beaucoup plus productifs.
J'aime bien démarrer le podcast avec une citation. Ça vient d'une BD que tu connais bien. Il faut environ 7 ans pour maîtriser quelque chose. Vous avez 11 occasions d'exceller dans un domaine. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça te parle autant?
C'est ma BD préférée. Ça me fait marrer que tu l'aies trouvée. Je la reposte de temps en temps sur Twitter. Parce que c'est une personne que je connais qui avait commencé un doctorat en neurosciences et qui l'a quitté pour ensuite devenir développeuse et qui ensuite a arrêté ça parce que ça ne la chauffait plus pour devenir entrepreneuse. Et à chaque fois, en fait, elle a réussi, mais dans quel sens du terme, en fait? Pas forcément dans le sens du terme d'arriver quelque part et ensuite d'y rester, d'être statique et de se dire que ça y est, c'est fini, on a gagné, entre guillemets. Elle a réussi dans le sens où elle a eu une sorte de cycle de croissance personnelle. Elle a appris tout ce qu'elle pouvait apprendre de cette expérience. Et ensuite, elle a eu envie de faire autre chose. Et ce qui est génial dans cette BD, c'est l'idée de dire que, comme tu disais, si ça prend à peu près 11 ans pour devenir vraiment un expert absolu dans un domaine, du coup, je me souviens plus du nombre exact, mais on a 7 ou 8 opportunités de devenir un expert à ce qu'on veut, devenir un poète, devenir un chef, devenir un athlète, devenir absolument ce qu'on veut vraiment. Et on peut donc vivre plusieurs vies différentes tout au long de sa vie. Et il y a une autre citation, je ne sais plus de qui elle est aussi, mais que j'aime beaucoup, et qui dit qu'une des choses les plus tristes, c'est quand les gens ne se laissent pas mourir. Et je pense que c'est ça, en fait, l'idée, c'est une fois qu'on a fini avec quelque chose, qu'on a appris tout ce qu'on avait à apprendre, on se laisse mourir dans cette vie-là pour ensuite renaître et s'en créer une autre. Donc c'est quelque chose que je trouve très inspirant et quelque chose que j'essaye de suivre dans ma propre vie, de ne pas continuer à forcément m'accrocher à une stabilité artificielle que je me suis créée et à toujours essayer de me renouveler et d'essayer de nouvelles choses.
Génial. Ça m'amène sur une autre question. Tu sais, à une époque, il y avait une seule vision. Il y avait la vision de l'entrepreneur classique et les conseils, c'était souvent niche-toi, trouve une micro-niche. Il y a le livre Océan Bleu, Océan Rouge qui est hyper connu par rapport à ça, différencie-toi, etc. Et on a vu arriver récemment, en tout cas, dans les dernières années, la posture plutôt de l'explorateur, donc des personnes qui vont plutôt dire « moi j'ai beaucoup de centres d'intérêt, je ne veux pas faire de choix et je veux plutôt créer une audience autour de ma personnalité, de mon branding et je veux emmener ces gens-là en fait dans un peu ma quête d'exploration ». Je suis curieux de savoir du coup comment toi tu te positionnes par rapport à ces deux postures qui est un peu la posture du start-upper, on va dire, pour prendre l'extrême, c'est-à-dire je réponds à une problématique très précise dans un marché et la posture de l'explorateur qui va plutôt être « j'ai des intérêts, j'ai une curiosité, j'assouvis ma curiosité et j'emmène une audience avec moi sur le chemin ».
En fait, je ne sais même pas si ça a du sens de dire ça en français, mais je pense que ce qui en général fonctionne assez bien, c'est d'avoir entre guillemets une multi-niche. Donc, se créer son... Je ne sais encore une fois pas... Je m'excuse auprès des auditeurs, au fait, parce que comme tu l'as mentionné, j'écris tout ce que je fais en anglais, je fais ma recherche en anglais, donc parfois j'ai un peu du mal à trouver les mots en français. Mais un diagramme de Venn, Venn diagram en anglais, ouais, donc en gros qui te montre que tu peux prendre plusieurs choses, tu les superposes et il y a une intersection quelque part. Et je pense que trouver ta propre intersection à toi qui t'est unique, c'est une forme de niche, mais pas dans le sens traditionnel que t'as décrit avant. C'est plutôt en fait de se créer son terrain de jeu à soi, qui fait la taille qu'on a envie qu'il fasse, qui peut changer, qui peut s'étendre, qui peut se réduire, qui peut se connecter au terrain de jeu d'autres personnes. Et donc, je pense qu'on peut à la fois avoir un point de vue unique et se différencier des autres en termes d'entrepreneuriat, de création de contenu, etc. Mais tout en ne s'enfermant pas dans des barrières artificielles et en se laissant vraiment l'opportunité d'explorer, de poser des questions, d'ajouter de nouvelles choses, de jouer avec des idées qui sont en dehors en fait de ce qui serait normalement une niche traditionnelle. Et je pense qu'aujourd'hui en fait c'est un peu la seule manière de à la fois réussir et de s'éclater quand on le fait, parce que je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont appliqué le côté niche traditionnelle et la réalité c'est que peut-être que oui ils font pas mal d'argent financièrement, ils ont du succès, mais on leur demande et qu'ils sont pas en public, ils disent que c'est emmerdant en fait. Parce qu'on tombe dans une routine et ça devient assez répétitif. On a tout compris à notre niche. On applique les codes qu'on a étudiés et voilà. Et encore une fois, on a gagné. C'est fini, le jeu est fini. Il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle Finite and Infinite Games. Donc les jeux finis et infinis. Et donc je pense que le côté niche traditionnel, c'est vraiment le point de vue Finite Games. Alors que le côté explorateur, c'est le côté infinite games de dire bah voilà, on va continuer à explorer, il y aura toujours à apprendre. Et pour revenir à cette BD qu'on a mentionnée au début, il y a toujours de nouvelles vies à construire.
Certains auditeurs savent que j'aime beaucoup Alex Hormozy. Et il parle justement des jeux finis, des jeux infinis, en disant que c'est très difficile de battre quelqu'un qui est dans un jeu infini, en fait. Quelqu'un qui ne veut pas arrêter de jouer. Parce qu'il prend tellement de plaisir à jouer qu'il ne s'arrête jamais, en fait. Et donc, il est capable de bosser. C'est pas forcément la notion clé, mais de bosser 10 heures par jour sur un truc, parce que ça le fait kiffer, en fait. C'est, comme disait Naval aussi, c'est pas vraiment du travail. Donc, je vois très bien de quoi tu veux parler. Comment tu vois, toi, l'équilibre entre ton boulot? Parce que je l'ai précisé, mais je vais le repréciser pour que les auditeurs prennent bien la mesure de la chose. T'es en doctorat.
Ouais.
Et t'as un gros business. Comment tu trouves l'équilibre entre ces deux choses-là, plus... Il y a quand même une vie sociale derrière. J'imagine que tu as des amis, tu as une famille, etc. Comment tu équilibres un peu tout ça?
Il n'y a pas d'équilibre. C'est un mythe complet. Les gens qui disent qu'il y a un équilibre, c'est un mensonge. Je trouve d'ailleurs que c'est un mensonge assez dangereux parce que les gens qui, du coup, n'arrivent pas à trouver cet équilibre se disent qu'il y a quelque chose qui cloche avec eux, qu'ils n'ont pas trouvé le secret, qu'ils n'ont rien compris, etc. Il y a zéro équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Tout ce qu'il y a, c'est à chaque moment un choix de qu'est-ce qui est le plus important. Et donc, il y a toujours quelque chose qui va être plus important sur le moment. Il y a certains moments où c'est mon entreprise qui est plus importante et donc du coup, bah, c'est ce que je vais faire. Et important, je ne veux pas forcément dire urgent, je veux vraiment dire important, qu'est-ce que je peux faire maintenant qui a le plus d'impact. Parfois, c'est mon doctorat et pareil, quand on parle de relations, de vie sociale, etc., parfois, passer du temps avec une amie ou avec quelqu'un d'autre de ma famille, etc., c'est la chose la plus importante sur le moment. Mais les gens qui disent « moi, le plus important pour moi, c'est la famille » ou « moi, le plus important pour moi, c'est ça », ça n'a pas de sens pour moi parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu peux que décider sur un moment précis, quelle est la chose la plus importante à ce moment-là. Et donc non, j'ai zéro équilibre. J'essaye juste d'être présente aux moments qui sont importants et où je peux avoir le plus d'impact quand ça a du sens.
Ok, donc t'es dans un déséquilibre, mais que tu choisis en fait. C'est-à-dire que quand t'as des priorités, on va appeler ça comme ça, t'as pas peur du coup de pas laisser tomber, c'est pas le bon mot, mais de prendre un peu de la distance avec d'autres choses qui sont tout aussi importantes dans ta vie, mais pas à ce moment-là.
Oui, exactement. Ça m'arrive de pas. Je sais qu'il y a des gens qui diront que je suis quelqu'un d'horrible, mais ça m'arrive de pas appeler mes parents pendant 2 semaines parce que à ce moment-là, j'ai la tête dans le guidon, je suis en train de travailler et c'est vraiment la chose la plus importante. Et là, je reviens de 2 semaines au Vietnam où j'ai pas touché mon ordinateur et j'étais avec mes parents à faire un road trip parce que c'était les 70 ans de mon père. Et c'était important d'être là à ce moment-là. Donc, c'est plutôt des décisions assez extrêmes sur le moment parce que j'essaye de faire les choses à fond quand je les fais. Et donc, plutôt que d'essayer de maintenir une sorte d'équilibre artificiel où je me sens bien parce que, bah oui, dans ma checklist, j'ai bien appelé mes parents une fois par semaine, le dimanche, pendant 20 minutes pour prendre des nouvelles. Je préfère ne pas essayer d'avoir cet équilibre et être là quand c'est important.
J'ai l'impression que tu m'as ciblé quand tu disais le dimanche, parce que c'est exactement ce que je fais. En parlant de checklist, il y a un truc dont je me suis rendu compte assez récemment cette année, en fait. C'est que quand on se fait des to-do list, tu vois, pour le boulot, on s'en met souvent beaucoup. On se dit, ouais, ok, cette semaine, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et en fait, souvent, j'arrivais au fin de semaine, je me disais, j'ai pas assez bossé. J'ai pas fini ma to-do list, donc j'ai pas assez bossé. C'était un peu ça, ma conclusion. Et récemment, je me suis rendu compte qu'en faisant l'inverse, c'est-à-dire si je me mets moins de tâches, ben toutes les semaines, je finis mes tâches en fait. Du coup, toutes les semaines, je suis content parce que je me dis « Ah, j'ai été au bout de ce que je devais faire » et ça crée une sorte de cercle positif. Je suis curieux de savoir un peu, est-ce qu'il y a des études là-dessus ou est-ce que c'est des sujets que toi, tu as étudiés ? On rentre un peu plus là dans le côté productivité. Est-ce que c'est des stratégies, est-ce que c'est du effet placebo, tu vois, ou est-ce qu'il y a des vraies data derrière qui montrent que il vaut mieux comme ça se créer des cercles positifs, même si on fait moins en absolu, parce que sur le long terme on est gagnant.
Oui, il y a d'ailleurs pour mon livre, j'étais en train de lire des papiers de recherche sur le sujet récemment parce que il y a une sorte de, encore une fois, de mythe qu'on a surtout chez les entrepreneurs de dire que l'échec est toujours bon, c'est toujours bien l'échec, on en apprendra toujours quelque chose, etc. C'est la manière d'apprendre, c'est la manière de grandir. Et du coup, il y a un papier, je ne me souviens plus du titre exact, mais c'était quelque chose un peu dans les eaux de « Is failure always good ?» Est-ce que l'échec est toujours bon ? Et la réponse, c'était que non, parce qu'en fait, quand on a des échecs répétés, on finit par tomber dans ces cercles vicieux où on perd sa confiance en soi et on n'essaye même plus. Ce qui est complètement normal, en fait. Une fois qu'on sort des archétypes de documentaires masterclass sur l'entrepreneuriat et qu'on regarde une personne absolument normale, si jamais on n'arrête pas de se prendre des claques, au bout d'un moment, bah, on arrête. C'est juste absolument normal. C'est un instinct de survie basique. Et en fait, ça probablement veut dire qu'on a une santé mentale assez équilibrée, de se dire « bah non, ça marche pas, au bout d'un moment, j'arrête ». Et donc, c'est important d'avoir, de se créer, comme tu dis, ce cercle vertueux où on se montre qu'on réussit et où du coup, on gagne en confiance, on gagne en motivation, on gagne en momentum pendant qu'on progresse. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que une autre chose qu'on n'a pas tendance à faire assez, je trouve, en général, surtout quand on est quelqu'un qui essaye d'être productif et qui est assez ambitieux, c'est qu'on fait quelque chose, on le fait bien et on passe tout de suite à la prochaine chose sur la liste. Et parfois, juste prendre une ou deux minutes un peu pour se féliciter et se dire « franchement, c'est quand même pas mal ce que je viens de faire ». Juste prendre une seconde, une petite pause, quelle que soit la manière qu'on a de célébrer, mais reconnaître les moments de succès qu'on a, même quand ce n'est pas forcément le grand moment de succès, le grand lancement de produits, etc., les micro-moments de succès tous les jours, c'est hyper bon aussi, ça contribue à créer ce cycle vertueux que tu as décrit.
Ok. On va revenir tout à l'heure sur une notion. Dans un des articles, tu parlais justement de cette... tu sais, quand tu fais des affirmations positives, qu'en fait, tu liais à une étude qui montrait que si tu es déjà quelqu'un qui, de base, a moins de confiance en toi, ça a l'effet inverse, en fait. Parce que tu sais que tu es en train de te mentir à toi-même. Et du coup, ça renforce le cercle. On va en reparler à la fin parce que c'est un truc, quand j'ai lu l'article, je me suis dit, ah, tout s'explique. mais tant qu'on est dans les mythes, parce que je vois que tu aimes bien casser un peu les mythes, il y a deux types de personnes, je trouve, en termes de productivité ou en termes d'organisation plutôt. Moi, j'aime bien être assez carré, tu vois, être assez organisé. J'ai mon agenda, j'ai ma to-do, j'ai mes trucs. Et en fait, en discutant avec les gens, tu te rends compte que tout le monde n'est pas comme ça et qu'il y a des gens qui adorent le chaos. Donc, ils se lèvent le matin et ils se disent « Tiens, qu'est-ce qui me motive aujourd'hui ?» Et ils vont faire la tâche qui les motive. Je suis curieux de savoir comment toi, tu fonctionnes. C'est quoi ton mode de fonctionnement un petit peu ? Et encore une fois, est-ce qu'il y a de la data qui montre que les organisés sont quand même censés mieux avancer ? Ou en fait, pas du tout, c'est juste une question de personnalité ?
En fait, ça dépend beaucoup du type de travail que tu fais. Et surtout, ça dépend beaucoup de si tu travailles en solo ou en équipe. Moi, je suis quelqu'un qui, naturellement, aurait plus tendance à être sur le côté chaotique. Je me lève et je décide, là, je vais plutôt bosser sur le bouquin, ou je vais plutôt écrire un article, ou je vais plutôt bosser sur un papier de recherche pour le doctorat, etc. La réalité, c'est que j'ai tenté ça quelques mois et ça ne marche pas parce que j'ai une équipe que je manage pour ma boîte. J'ai des superviseurs pour mon doctorat. J'ai des éditeurs à ma maison d'édition. J'ai un agent. J'ai des personnes autour de moi qui attendent des choses à certaines dates, qui ont des questions, qui ont besoin d'aide sur certains projets. Si je me pointais tous les matins en disant « bon non, moi c'est plutôt ça que j'ai envie de faire », je ne pense pas que ça fonctionnerait, même si ouais, j'aimerais bien. Mais donc du coup, ce que je fais personnellement, c'est que je fais en sorte de me garder du temps pour ce type de travail un peu plus chaotique. Donc je sais que j'ai du temps, pour moi c'est les vendredis, où j'ai pas de rendez-vous, j'ai vraiment mes zéro meeting et c'est mon moment à moi où je peux me réveiller le vendredi et dire « alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» Et j'adore ça et j'en ai besoin d'ailleurs. Donc, je pense que c'est complètement possible d'avoir une tendance un peu plus chaotique et d'être capable d'être organisé quand il y a besoin d'être organisé. Donc, pour juste répondre à la première partie de ta question, oui, c'est le cas qu'il y a un peu deux types de personnes, je suis d'accord avec toi. Ensuite, en termes de performance, encore une fois, ça dépend un petit peu de ce qu'il y a à faire. Pour des projets très créatifs où on ne sait pas du tout où on va, c'est peut-être pas mal d'avoir quelqu'un qui est un petit peu plus orienté, pensée divergente et un petit peu plus chaotique et qui va générer plein d'idées. Et ensuite, c'est pas mal d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui va avoir un type de pensée un peu plus convergente et qui va aider à prendre tout ça et à dire « Ok, on s'organise comment ça va prendre combien de temps, on a besoin de quelles ressources, etc. » La réalité, c'est que quand même, la plupart des personnes sont capables des deux. C'est juste qu'il y a un style qu'on préfère, mais une personne qui préfère être organisée, avoir des listes, etc., elle est aussi complètement capable d'être créative quand il y a besoin d'être créative. Et une personne qui est un peu plus chaotique, etc., elle est aussi capable de s'organiser quand il y a besoin de le faire. Ce qui est pas mal en général, quand on bosse en équipe, c'est d'avoir un mix des deux. Et aussi, quelque chose que je recommande beaucoup, j'ai publié un article là-dessus, mais sur le concept d'avoir un manuel d'utilisation de toi, en fait, que tu partages avec tes collègues. Et donc, nous, on le fait dans mon équipe et c'est vraiment juste un PowerPoint. Et tu dis juste, bah voilà, ça c'est moi. Si tu as une question à me poser, personnellement, je préfère que tu m'envoies un petit message ou un email ou non, en fait, je préfère qu'on attende qu'on ait un meeting pour en parler. Ou voilà, ça c'est moi, n'hésite pas à me taper sur l'épaule si tu as besoin de quelque chose, ou si j'ai mon casque, ça veut dire qu'il ne faut vraiment pas venir me déranger. Si jamais tu as vu que j'avais fait une faute, enfin quelque chose de pas bien dans le travail, je préfère que tu me le dises vraiment franc du collier, ou par contre non, je préfère qu'on prenne un peu des pinces parce que je peux un petit peu me vexer, etc. Et donc là c'est pareil, d'avoir un peu de mettre dans ton manuel, de dire bon moi je vous explique, je suis un petit peu chaotique de nature, mais n'hésitez pas à me le dire. Quand je pars un petit peu dans tous les sens, je le prendrai pas mal, je sais que je suis comme ça, donc ouais, je vous préviens. Et pareil, de dire, moi, je suis plutôt du type organisé. Si vous avez l'impression que je deviens un petit peu rigide là et que je nous bloque un peu en termes d'innovation, n'hésitez surtout pas aussi à me le dire. Donc, je pense que, comme pour beaucoup de choses, savoir ce qui te convient, ta manière de travailler, comment tu fonctionnes, et d'autre part, le communiquer de manière transparente avec tes collaborateurs, tant que tu fais ça, à peu près toutes les configurations peuvent fonctionner.
Je trouve ça génial ce concept de manuel. C'est la première fois que j'en entends parler. Ça ne doit pas être évident parce qu'il faut quand même bien se connaître. Alors, il y a des trucs assez simples. Tu parlais de l'exemple du casque. Moi, c'est mon exemple. Tu vois, quand je bosse, je sais que quand j'ai mon casque, je n'aime pas qu'on vienne me parler parce que justement, ça veut dire que je suis focus. Donc, ce n'est pas le moment. Mais il y a d'autres choses, effectivement, qui sont beaucoup plus difficiles, je trouve, à mettre en avant. Tu vois, la façon, par exemple, de recevoir une critique, dans le sens bonne critique, dans le sens par exemple t'as fait une faute, t'as fait une erreur, je pense que tout le monde n'est pas capable de se dire ah bah oui moi je préfère qu'on me le dise directement, ou peut-être certaines personnes vont se mentir un peu même, oui moi je suis franc, vas-y dis-le moi, et en fait tu vas leur dire et tu te rends compte que c'est pas vraiment le mode de fonctionnement qui était le bon.
C'est pour ça que ce concept du manuel d'utilisation, je l'ai mis dans un article qui parle pas que de ça, qui parle du concept de psychological safety, sécurité, comment dire, de se sentir en sécurité psychologiquement, oui, je pense, voilà, qui est très importante, et c'est souvent le rôle du manager ou du fondateur de la startup de créer ça, en fait. Et nous, par exemple, ce qu'on fait dans mon équipe, c'est que quand j'en embauche quelqu'un, ils font un premier brouillon et c'est OK si c'est pas complet, mais ça devient en fait un brouillon qu'on peut mettre à jour au fur et à mesure. Donc, si par exemple, on se rend compte pendant une conversation, que je leur donne du feedback d'une certaine manière et je sens que ce n'est pas reçu très, très bien, je peux poser la question et de dire « Au fait, maintenant qu'on a un peu réglé ce problème, est-ce que tu aurais préféré peut-être que je te le dise d'une autre manière ou qu'on approche la chose différemment, etc. ?» Super, bah ça, tu vois, dans le futur, par exemple, c'est quelque chose que tu peux avoir dans ton manuel. La réalité, c'est qu'en fait, on ne check pas vraiment le manuel quand on bosse ensemble. On le lit en général au début quand on bosse ensemble. Quand on commence à bosser ensemble, c'est pas quelque chose qu'on check tous les jours, mais c'est plus un outil pour créer des conversations et pour en faire quelque chose de complètement normal, de dire, vu qu'on a ce manuel quelque part, de dire bah, c'est normal d'avoir ces discussions et de dire bon bah cool, on a parlé du feedback en lui-même, maintenant on va à 30 secondes, une minute, on va juste parler de la manière dont ce feedback a été communiqué, est-ce que je peux améliorer ça pour la prochaine fois. Je pense que c'est aussi le rôle des personnes qui sont en position de leadership, de faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise de se poser ces questions. Et parfois, la réponse, c'est de dire Ben en fait, tu sais quoi, je ne sais pas trop. Je ne suis pas trop sûre de comment j'ai ressenti ça. Je vais y réfléchir et puis on verra. Là, pour l'instant, je ne sais pas trop. Et c'est OK.
Ça permet de décomplexifier pardon, les discussions justement qui sont un peu des fois difficiles parce que parler de soi, on aime tous parler de nous-mêmes, mais pas forcément sur tous les sujets, et notamment ces sujets-là qui sont assez, assez sensibles. Est-ce que tu peux définir ou préciser, ce n'est pas une définition académique, mais pensée divergente, pensée convergente pour les auditeurs?
Oui, donc pensée divergente, c'est quand on est sur un podcast, c'est de l'audio. J'allais utiliser mes mains pour t'expliquer, c'est pas très pratique. Pensée divergente, c'est quand on génère beaucoup d'idées sans aucun jugement. Donc, c'est un peu la chose la plus similaire que je pourrais te donner, c'est le concept un peu du brainstorming où on dit voilà, on a plein d'idées. Et donc, du coup, on l'appelle divergente parce qu'on essaye de trouver le plus d'idées possibles qui sont le plus différentes les unes des autres possibles. Donc, on étend, c'est pour ça que j'avais le réflexe d'utiliser mes mains, mais on étend le territoire d'exploration. Et donc, on part, ça s'écarte en fait, en gros, donc le côté divergent. Et ensuite, convergent, c'est quand ça se referme, on fait converger les idées et là, on regarde qu'est-ce qu'elles ont en commun, est-ce qu'il y a des thèmes, est-ce qu'il y a des motifs qui se répètent et est-ce qu'on peut trouver une idée parmi toutes celles-là qui va être celle qui capture tous les besoins qu'on avait quand on s'est posé cette question. Et les gens ont des types de pensées qui sont parfois plus divergents ou convergents. Donc, il y a des gens qui vont être beaucoup plus à l'aise dans la partie « et si on faisait ci ?»« Et si on faisait ça ?»« Oh, vas-y, on tente ci, on tente ça. » Et il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus à l'aise dans la deuxième partie où c'est « bon, ok, cool, on a plein d'idées. Maintenant, c'est le moment de décider, c'est le moment d'en choisir une et c'est le moment d'exécuter. Un autre terme qui est utilisé en psychologie, c'est le côté « exploration-exploitation ». Et donc, exploration qui est attachée au côté divergent et exploitation qui est attachée au côté convergent.
Ok. Moi, j'avais entendu aussi idéation, production. Je ne sais pas si c'est... Enfin, c'est, en fait, ça veut dire la même chose, je pense.
Oui, sauf que, en général, quand on parle de pensée convergente et divergente, on est vraiment encore au stade de la pensée. Donc, il n'y a pas encore d'exécution ou de production à D'accord. ce stade-là. C'est vraiment sur le moment où on décide ce qu'on va faire, en fait. Et ensuite, tu as la production. Donc... Je pense qu'il y a des parallèles, mais effectivement, ouais, ça se rapprocherait plutôt comme ça, ouais. Idéation, production.
Ok. Qu'est-ce que tu penses de la hustle culture ?
Je pense que la hustle culture a été extrêmement toxique pendant des années. Il y a eu, à l'époque, il y a eu beaucoup d'articles qui ont été publiés sur l'épidémie de burn-out qu'il y a eu, non seulement chez les fondateurs. Les fondateurs étaient les personnes, apparemment, il y avait une enquête à l'époque qui avait été faite, mais qui avait le plus haut taux de problèmes de santé mentale okay. parmi les gens qui sont, comment on appelle, white collars, quoi. Enfin, donc, pas les travailleurs manuels.
Oui.
Ouais. Donc,
les cols blancs.
Ouais, cols blancs. On dit en français cols blancs ?
Ouais, je crois qu'on dit cols blancs.
Ok, bah, super, j'apprends. Mais... Donc, parmi les cols blancs, ça sonne hyper bizarre en français, les fondateurs étaient les personnes avec le plus de problèmes en termes de santé mentale, donc dépression, anxiété, etc. Et le problème qu'on avait en plus, c'est qu'on ne pouvait pas en parler, parce qu'en tant que fondateur, tu es censé être un leader, savoir où tu vas, tu es censé avoir confiance et donner confiance. À tes collaborateurs, où tu peux pas dire que en fait tu as des doutes, tu te sens pas bien, tu n'as pas envie de te lever le matin, tu n'arrives pas à dormir le soir, etc. Ça se disait absolument pas. Donc je pense qu'il y a eu d'une part un changement qui est super, qui fait que maintenant c'est devenu beaucoup plus accepté de parler de sa santé mentale et de prendre des breaks et d'en prendre soin, tout comme on prend soin de sa santé physique. Et il y a aussi de plus en plus d'investisseurs d'ailleurs dans les startups qui comprennent maintenant que c'est vachement mieux quand on a un fondateur qui sait prendre soin de sa santé mentale, parce qu'en général, c'est intense, ça prend du temps, ça prend des années, et donc on veut avoir un fondateur qui est capable de tenir sur la distance. Donc d'une part, il y a ça, et d'une autre part, il y a aussi ce que tu as mentionné, donc le phénomène plus culturel au niveau vraiment sociétal, des gens qui ont envie de retrouver une certaine balance, de dire qu'il n'y a pas que le travail, etc. J'ai un ami qui vient de publier un livre qui s'appelle, c'est en anglais là, donc c'est The Good Enough Job. Le enough, quoi. Enfin, ouais, donc,
travail
le
suffisant
Le travail suffisant et de dire que on passe la majorité de notre vie au travail. C'est juste la réalité. Donc en fait, c'est quand même bien d'avoir un travail qui nous plaît. mais qu'une fois qu'on est arrivé à ça, il ne faut pas que le travail devienne toute notre identité. Et il y a un concept qui s'appelle, qui est le concept de complexité personnelle. Et en fait, c'est comment tu te définis. Et pareil, si tu regardes à ta santé mentale, plus tu as, donc c'est self-complexity en anglais, ta complexité personnelle, plus tu as d'identités différentes, de multiples identités, plus ta santé mentale va être solide et résiliente. Donc si tu te définis, par exemple, comme un fondateur de start-up, mais aussi un papa, et peut-être aussi un super bon ami, donc un ami sur lequel les gens peuvent compter, et peut-être aussi un footballeur, ou j'en sais rien, footballeur amateur, etc. Donc voilà, ouais, tu as ces quatre identités. Si demain, ta start-up foire et que ça se passe pas bien, tu as trois autres identités sur lesquelles te reposer. Donc tu as toujours ce sens d'identité et tu vas vachement mieux t'en sentir en termes de santé mentale que si ta seule identité, c'est ton travail et que le travail ne fonctionne pas. Et donc, c'est en fait une très bonne chose qui est en train de se passer, de dire qu'en fait, oui, c'est une identité, mais ça devrait être une identité parmi d'autres identités. Et après, ce qui est important par contre aussi, c'est de ne pas partir complètement dans l'extrême et de dire complètement rien à foutre du travail, parce que c'est juste la réalité d'aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, on arrivera à construire un système. Je suis très pour le revenu universel, personnellement. Donc, peut-être qu'un jour, on arrivera à construire un système où on n'est pas obligé de juste travailler pour pouvoir payer son loyer. Mais aujourd'hui, en tout cas, la plupart des gens, quand même, vont passer au moins 35 heures par semaine au travail. Et c'est une énorme partie de leur journée. Et donc, idéalement, quand même, c'est bien de trouver un boulot qu'on aime bien, même si ce n'est pas la passion de ta vie, un boulot quand même que tu aimes bien. Et quand tu te réveilles le matin, tu as envie d'y aller. Et le soir, tu es content, tu finis de travailler, et puis tu as d'autres choses, tu as d'autres identités, etc. Donc, un petit peu comme tout, c'est une question d'extrême. La hustle culture est un extrême. Le côté aussi déconnexion complète du travail, aujourd'hui, est un extrême. Le travail, quand il est défini d'une manière enrichissante, que c'est quelque chose qu'on aime faire, où il y a un aspect créatif, où il y a un aspect de connexion et de collaboration avec d'autres personnes, le travail contribue au bonheur quand il est fait de cette manière-là.
Ça m'intéresse ton point de vue du coup sur le revenu universel, c'est une petite digression, mais tu penses que ce serait une façon de laisser plus de temps aux gens du coup de poursuivre des projets qui leur plaisent vraiment ?
Oui, absolument. Et pour moi, ça permettrait de faire en sorte que les gens n'aient pas à travailler pour faire des choses qui épuisent toute leur énergie pendant la journée. Et ensuite, ils ont plus d'énergie derrière. Et c'est une vie qui est dure, en fait. C'est une vie très, très dure pour beaucoup de personnes. Je pense aussi qu'on aurait une société qui fonctionne vachement mieux si jamais toutes les personnes qui avaient envie d'explorer certains types de métiers qui sont intéressants et bons pour la société, mais qui ne sont pas forcément liés à tout de suite à un revenu immédiat, je pense que ça donnerait une société qui fonctionne beaucoup mieux et où les gens seront beaucoup plus heureux. Et il y a plein de gens qui disent « bah oui, mais si on fait ça, les gens ne travailleront pas ». Mais encore une fois, travailler, pas dans le sens de gagner sa vie, travailler est pour la plupart des gens qui ont réussi à trouver quelque chose qui leur plaît et est un plaisir. C'est pas du travail, en fait. Mais malheureusement, il y a très peu de personnes qui ont l'opportunité de faire un travail qui leur plaît. Donc pour moi, le revenu universel, ce serait juste une manière de faire en sorte que plus de personnes puissent travailler sur des projets qui leur plaisent.
Comme par exemple des projets artistiques, des choses comme ça, qui peuvent apporter à la société, mais en France, c'est assez compliqué de vivre de l'art. Donc, oui. Par exemple, c'est marrant parce que j'ai eu la discussion avec Jean-Charles Curdali et il me parlait justement, tu vois, lui, de sa vision. Lui, il voyait ça comme étant de toute façon une partie de l'avenir et pas forcément dans le bon sens. Il m'expliquait qu'il pensait que les inégalités allaient se creuser de plus en plus avec l'avenir, notamment avec l'IA, etc. Ce sera peut-être même pas l'IA, comme il disait, mais ce sera peut-être autre chose. Et qu'en fait, peut-être que ce sera même les entreprises qui seront contentes de donner un revenu universel aux gens parce que ce sera une forme de contrôle, en fait, où eux, ils auront une grande partie des ressources et du contrôle avec les technologies, avec la main-d'œuvre, etc. Et où, en fait, comme les gens seront un peu assommés par le fait que, bon, ils ont un revenu universel, donc ça leur permet de vivre et ils n'ont pas besoin d'aller chercher cet argent-là, ils ont toujours un peu le contrôle sur eux. Donc, c'est intéressant d'avoir une opinion différente. Tu vois, je ne l'avais jamais vu sous cet angle de laisser plus, du coup, de place à la créativité et à l'envie, à la passion des gens.
Je pense qu'une chose qu'il faut se rappeler quand on parle du revenu universel, c'est que c'est un revenu qui est suffisant juste pour vivre, en fait. Et la plupart des gens ils veulent plus que ça. Et donc, je pense que de toute manière, il y restera de l'ambition. Les entreprises, pareil, hein, il faut bien qu'elles vendent quelque chose, sinon elles vendent quoi? S'il y a personne qui, si tout le monde n'a que le revenu universel, Apple s'en sortira pas super bien, je pense, avec les produits qu'ils vendent. La plupart des marques de mode de luxe, etc., s'en sortiront pas super. Toutes les marques de voyage, de tourisme s'en sortiront pas super si les gens se contentent juste du revenu universel. Donc moi, je pense que ça changera pas forcément grand chose dans les dynamiques dans le futur. Il y aura toujours, c'est déjà le cas, il y a des gens qui sont contents avec un revenu absolument minimum aujourd'hui, qui se contentent de ça et qui n'ont pas besoin de plus. Il y a aussi beaucoup d'autres gens, ce n'est pas suffisant, et ils veulent voyager, ils veulent peut-être s'exprimer d'une manière ou d'une autre, que ce soit au travers de la mode ou au travers d'expériences culturelles, etc., qui coûtent de l'argent. Et donc tout ça, ça serait au-dessus du revenu universel. Donc moi, je pense que ça changerait absolument pas grand-chose en termes de dynamique générale si on reste dans une société capitaliste. Par contre, vraiment, ce que ça changera, c'est que pour cette partie de la population qui existe, qui aujourd'hui aimerait peut-être faire un podcast ou qui aimerait essayer même de commencer une start-up ou peut-être faire le type de recherche scientifique qui reçoit pas forcément des fonds aujourd'hui, etc., et qui aujourd'hui ne peuvent pas parce que en fait elles sont bloquées dans un travail alimentaire, ces personnes-là seraient libérées en fait. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois.
C'est super intéressant parce que je te dis, c'est une vision différente et ça apporte un point de vue. Et c'est exactement pour ça que le podcast existe. C'est pour avoir des points de vue qui sont complètement des fois opposés, ou pas forcément opposés, mais des visions différentes simplement. Et ça permet aux auditeurs de créer après leur propre avis et d'avoir de la nuance en fait dans ce qu'ils disent plutôt que « ah bah c'est comme ça » ou « ah bah c'est blanc » ou « c'est noir ». On retourne un petit peu sur la productivité. On a parlé du coup de la hustle culture. Je suis curieux de savoir s'il y a des données sur l'épuisement un petit peu, justement, tu vois, dans une journée, de savoir par exemple, est-ce que, parce qu'il me semble que j'ai vu passer un de tes articles dans lequel tu parlais un peu du soft spot qui était 4 heures, à peu près 4 heures de travail sur des tâches créatives. Est-ce que c'est uniquement propre aux tâches créatives? Est-ce qu'il y a d'autres travaux qui ont été faits sur une journée de travail classique? En fait, est-ce qu'on voit au fur et à mesure de la journée que les gens, même s'ils font un boulot par exemple en usine où tu vois, ils doivent, je sais pas, monter une pièce, ils ont la productivité baisse avec la journée ou avec la semaine. Voilà, je suis assez curieux de savoir s'il y a ça dans les études.
Oui, donc il y a des études. C'est pas mon domaine de spécialité. L'étude en particulier que j'ai sur Nestlab sur les 4 heures, elle a été faite vraiment sur des tâches créatives. C'était des chercheurs scientifiques et en gros, ce qu'ils ont regardé, c'est les heures de travail des personnes et leur taux de productivité scientifique. Donc en termes de papiers de recherche publiés. Donc okay. Ce que j'aime beaucoup dans ce papier, c'est que c'est très clean en fait, comme manière de faire, il n'y a vraiment pas de doute, on regarde juste sur un gros échantillon de chercheurs, combien de temps ils travaillent et à quel point ils sont productifs slash créatifs, parce que c'est de la recherche scientifique, donc c'est pas juste un travail de copier-coller des choses, etc. Il faut vraiment réfléchir à des questions, etc. Et 4 heures, c'était vraiment ce sweet spot. Après ça, il y avait plein qui bossaient beaucoup plus que ça, mais ils n'étaient pas du tout beaucoup plus productifs. Et avant ça, ils publiaient moins de papiers, donc peut-être qu'ils auraient bénéficié de travailler un tout petit peu plus. Et ce qui est vachement utile dans ça, c'est que quand ça peut aider, encore une fois, on est tous différents, c'est des moyennes hein, dans les papiers comme ça, donc il ne faut pas se dire « ah bah non, c'est 4 heures pour moi ». Mais ce qui est intéressant, c'est que ça quand même montre qu'on a un sweet spot, quelque part, en termes de travail. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est un petit peu d'expérimenter avec soi-même et de voir à quel point on est productif en fonction du temps de travail qu'on a. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qu'on peut installer qui nous montrent combien de temps on a travaillé, sur quoi, etc. Et donc, on peut aussi regarder à la fin de la journée. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile pour certains types de travail. Si on est écrivain, si on est codeur, etc., on a quand même quelque chose d'un peu plus tangible à étudier pour savoir quelle a été notre productivité. Mais en général, on peut quand même regarder ça de manière un peu plus proactive et se dire, bon, alors, OK, en général, j'ai combien d'heures? C'est quoi mon nombre d'heures? Et ensuite, de se dire, du coup, je les divise comment, ces heures? Et donc, par exemple, personnellement, je sais qu'il y a, une sorte d'adage, les Anglais, ils disent « eat the frog first ». Donc, tu te réveilles et tu manges la grenouille en premier. Et de dire, tu te réveilles, tu commences par la tâche sur ta liste qui te dégoûte le plus, tu n'as vraiment pas envie de le faire, et comme ça, tu es débarrassé, tu peux faire le reste après. Moi, ça ne fonctionne absolument pas pour moi. Si je fais ça, je suis dégoûtée pour le reste de la journée. et j'ai plus envie de travailler. Et donc, moi, j'applique pas ça du tout. En général, je fais vraiment 4 heures ultra intenses le matin où je bosse sur de l'écriture, de la recherche, des choses très créatives, etc. Parfois, c'est 3 heures. Parfois, c'est un peu plus en fonction de mon inspiration. Mais je commence par ces heures-là. Et l'après-midi, je fais mes meetings, mes emails, toutes mes choses qui ne me demandent pas autant d'engagement intellectuel. Mais ça m'a vraiment aidé quand j'ai lu ce papier, du coup, de me poser un petit peu cette question, d'avoir à peu près combien d'heures et je les mets où. Et j'ai un petit peu expérimenté comme ça et je me suis dit, non, en fait, moi, c'est plutôt ce setup. Et après, donc, je n'ai pas de papier en tête en particulier sur l'épuisement au cours d'une journée. Mais j'ai envie de dire que quand même, je pense que oui, on le sent tous qu'on a besoin de dormir le soir, hein, de toute manière. Hein. Donc, si jamais il n'y avait pas d'épuisement, on pourrait continuer comme ça non-stop. Donc, je pense que oui, bien sûr, il y a un épuisement. Et après, par contre, c'est pour ça que je n'ai pas envie de donner de conseils trop généraux là-dessus, ou trop spécifiques, parce qu'en fait, on a aussi tous nos cycles circadiens qui sont très différents en fonction des personnes. Et qui peuvent changer même au cours d'une vie chez une personne. Donc moi, je travaillais vachement mieux de nuit avant, et maintenant, je suis plutôt du matin. Donc il faut juste un petit peu regarder ce qui fonctionne pour toi. Donc ça peut changer. Et vraiment, le seul conseil que j'ai à donner là-dessus, c'est si vous faites partie des gens qui ont la chance d'avoir un peu de contrôle sur votre emploi du temps, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, ça vaut vraiment, vraiment le coup de se poser cette question. Et un dernier petit outil que j'ai appris il n'y a pas longtemps d'un ami, que je trouve super sympa et utile. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'à la fin de chaque semaine, il retourne dans son calendrier et il change la couleur de ses meetings en rouge, jaune ou vert. Et donc rouge, c'est les choses qui lui ont pompé toute son énergie, jaune, c'est neutre, et vert, c'est les choses qui lui ont donné de l'énergie. Et il essaye ensuite, en planifiant sa semaine d'après, d'avoir une semaine aussi verte que possible. Et j'ai découvert ça récemment et je trouve ça vraiment super. Donc vous pouvez faire ça ou ça peut être aussi parfois du journaling, d'écrire, etc. En général, en tout cas, le simple fait de se poser ces questions, ça permet quand même d'améliorer sa productivité.
Ton ami, c'est Sally Bloom ?
Oui.
Mais non.
Si.
Ah, c'est énorme. Je rate pas une de ses newsletters.
Ah, mais génial.
Et donc, ouais, j'ai vu passer sa newsletter sur le Energy Calendar et j'avais trouvé ça très, très smart. Est-ce que tu as fait quelque chose de particulier pour passer de Night Owl à morning person ou ça s'est fait un peu naturellement?
J'ai arrêté de boire.
Dit comme ça, ça fait bizarre.
Non, mais oui, mais j'ai pas fait arrêter de boire pour ça, mais ça a clairement et ça s'est passé à peu près au même moment. Donc je pense vraiment que c'est ça. Et je pense que en fait, avant quand je buvais, j'allais souvent, je vais toujours maintenant boire des verres avec des amis, sauf que je bois des choses sans alcool maintenant. Et avant, le fait de boire de l'alcool en parlant avec des amis que j'adore, qui sont hyper intéressants, je rentrais chez moi et je réouvrais mon ordi. Je me disais, il faut que j'écrive ça. Waouh, c'était vraiment trop intéressant et tout. Mais parce que j'étais pas bourrée, mais c'est vraiment, encore une fois, ce sweet spot d'avoir juste bu quelques verres, inspiré, on se sent créatif, etc. Et je me disais, oh là là, faut que j'écrive. Puis je me retrouvais à 1h du mat encore en train de bosser sur des trucs. Et maintenant que j'ai plus l'alcool pour me maintenir éveillée comme ça le soir, en fait, je rentre de verre avec des amis. Je trouve ça génial, toujours la conversation, mais je vais me coucher. donc pour moi, ça a été ça. Mais pour plein d'autres personnes, il y a des changements de vie. Donc ça peut être des trucs purement biologiques de type changements hormonaux qui peuvent arriver en vieillissant. Donc il y a des femmes qui disent par exemple qu'autour de la ménopause, leur cycle change complètement de sommeil. En vieillissant aussi, on dort beaucoup moins, on a tendance à se réveiller beaucoup plus tôt. Les adolescents, par contre, ont tendance à se réveiller beaucoup plus tard. Parfois, c'est des choses aussi qui n'ont rien à voir avec notre biologie interne, mais par exemple, avoir des enfants, tout simplement, qui forcent les gens à se réveiller à 5-6 heures du mat. « Papa, maman, vous faites, etc. Vous faites quoi ?» Et du coup, même si à la base, on est quelqu'un qui a tendance à plutôt travailler bien le soir, on est claqué en fait le soir, donc on va dormir et petit à petit le corps se réadapte à ce rythme-là et donc on n'a plus vraiment ça. Donc les cycles peuvent complètement changer pour différentes choses, pas besoin d'arrêter de boire pour changer son cycle de sommeil. Mais moi dans mon cas c'était ça, la chose qui l'a impacté.
C'est un peu un truc contre lequel j'ai du mal, moi je suis plutôt du soir aussi. Et après, je pense qu'il y a des facteurs qui font ça. J'ai tendance à rester sur les écrans, etc. Enfin, pas forcément les réseaux, mais tu sais, des podcasts, je regarde en vidéo. Enfin bref, peu importe, pas raconter ma vie. Mais Donc effectivement, quand tu coupes ces éléments-là, ça te permet de te recaler un petit peu. Mais ouais, c'est pour ça que j'étais curieux de savoir si tu avais fait quelque chose en particulier pour décaler, parce que je trouve quand même que il y a un côté. En fait, les deux sont sympas. Le soir, quand t'es tard le soir, que tu poses, que tu fais un truc créatif, t'es un peu dans le flow. Il y a un côté un peu, je sais pas, hacker qui est assez cool. Mais en même temps, le matin, quand t'es debout à 6h30, que t'es en forme, que tu vois le lever du soleil et que tu vas bosser, t'es aussi dans un état où tu dis, purée, là, ça, c'est une bonne journée.
Ouais, exactement. Et j'aime bien les deux. J'ai encore des moments où parfois je me couche hyper tard. Et pareil, dans mon cas, j'ai quand même tendance à remarquer, mais encore une fois, c'est personnel, et très similaire à ce que tu viens de décrire. C'est qu'en général, je sens que tôt le matin, ça va plutôt être de la productivité pour moi. Et je vais être en mode get shit done un petit peu. Donc pareil, le soleil se lève, etc. Je vais faire. Et par contre, quand c'est le soir et que je suis tard, c'est plus créativité. Je bosse sur des projets. Je vais peut-être essayer de coder un petit truc. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais lire 10 000 tutoriels, regarder des vidéos sur YouTube pour essayer de voir comment ça fonctionne. Et du coup, ça ne me dérange pas si ça prend 4-5 heures parce qu'il n'y a rien derrière, il n'y a pas de meeting derrière, il n'y a personne qui m'attend. C'est un peu... la nuit est à nous, quoi. C'est un peu ce feeling. Donc du coup, pareil, c'est un peu plus créativité en général le soir pour moi. Mais comme tu l'as dit, le but, c'est vraiment d'expérimenter, de faire ce qui fonctionne et de garder en tête que ça peut changer. Donc en fait, de toujours avoir cet espace un peu de réflexion personnelle et de se poser la question de temps en temps. Est-ce que cette chose que je fais depuis toujours fonctionne toujours pour moi? Ou est-ce que peut-être qu'un changement pourrait être intéressant? Tant qu'on continue à faire ça, je pense que ça va, on peut continuer à améliorer son système et on aura toujours quelque chose qui fonctionne à peu près bien.
Tu lis beaucoup de livres?
Oui.
Tu as interviewé Thiago Forte, donc, qui est la personne, pour les auditeurs, si vous ne connaissez pas, qui a popularisé le concept de second brain, de second cerveau. Vous irez voir, je mettrai le lien dans la description. Ah ben voilà. Alors montre le livre de Thiago sur la caméra. Donc, notamment, c'est pas que ça, mais Thiago parle de prendre des notes sur ce qu'on lit, de retenir, enfin, pour retenir déjà les concepts et puis pas juste lire dans le vide. Et il y a une autre personne qui inspire beaucoup les entrepreneurs, qui est Naval Ravikant, qui a cette phrase populaire où il dit que il faut d'abord aimer ce que tu lis ou lire ce que tu aimes pour ensuite aimer la lecture. Je crois que c'est dans ce sens-là. La traduction, c'est compliqué aussi quand tu lis en anglais. Et donc, je suis curieux de savoir, ouais, est-ce que tu te situes plus d'un côté ou plus de l'autre? C'est-à-dire, est-ce que tu prends des notes sur ce que tu lis? Et c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est, est-ce que tu as plutôt cette vision de dire, je lis un maximum de choses et je laisse mon cerveau, en fait, faire les connexions naturellement? Ou j'ai plutôt, du coup, la vision de Thiago qui est, je lis moins de choses, mais j'essaie de capturer un maximum d'idées et de me les faire miennes, tu vois, mais de manière active?
Donc, du coup, en se concentrant sur des livres de non-fiction, quoi. Donc pas de romans, de choses comme ça. Je ne lis quasiment plus que maintenant que dans un but de production, en fait. Donc, soit je lis pour mon doctorat, et dans ce cas-là, en fait, quasiment quand je prends une note, c'est que je sais déjà qu'elle va aller dans tel chapitre de ma thèse ou dans tel papier, etc. Okay. Et sinon, je la note pas parce que je sais qu'elle va rester à pourrir quelque part et qu'elle me... servira à rien. Pour mon livre que je suis en train d'écrire, c'est pareil. En général, quand je lis quelque chose et que j'ai envie de prendre une note, c'est que je me dis, oh là là, ça serait super pour le chapitre 3, ou ça serait super pour ce paragraphe que j'arrivais pas à terminer, bah, c'est super, c'est ça l'idée, etc. Donc pareil, je note et ça va vraiment dans mes notes, ça va dans la partie du bouquin correspondante. Et pareil pour ma newsletter et mon blog, en général, quand je prends une note, c'est que je me dis « Ah, oh, je vais écrire un article là-dessus à un moment donné parce que je trouve ça hyper intéressant. » Et en fait, je pense qu'à partir du moment où on se crée un projet créatif, mmh. du coup, on ne se prend plus la tête sur ces questions de bah, « Je prends des notes, pourquoi ?» Parce que les connexions, on les voit tout de suite parce qu'on voit des connexions en rapport avec notre projet créatif. Et un projet créatif, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Ça peut être... un podcast qu'on a, et donc du coup on se dit ah, ça serait une super question à poser à un invité, ou ça serait peut-être un sujet que j'aimerais explorer, etc. Ça peut être une newsletter, ça peut être, je connais des gens qui organisent des groupes de discussion, des gens qui ont des meet-up, il y a vraiment un projet créatif, ça peut être, c'est infini les possibilités. Une fois qu'on a ça, ça devient un socle pour recevoir les connexions, en fait, quand on lit quelque chose. Et du coup, absolument automatiquement, sans faire aucun effort, je sais que Thiago a cette méthode pas à pas, condenser tes notes, etc. J'adore Thiago, on est très très proches. Mais Moi, quand je vois ça, et il y a des parties de sa méthode que je trouve super, mais celle-là, par exemple, je me dis, mais non, j'ai pas le temps, moi, de prendre une note et de rester 3 minutes à la regarder, reformuler ça, etc. Qui fait ça, en fait, pour de vrai? Qui fait ça? Et donc, du coup, non, moi, je prends mes notes à l'arrache, mais moi, j'utilise Rome comme système de notes. La seule chose que je fais, c'est que j'ai aucune note qui est connectée à rien. Donc, si je mets quelque chose dans mes notes, il faut que ça soit connecté à quelque chose, que ce soit une idée que j'avais déjà là-dedans, un chapitre sur lequel je bosse, une conversation que j'avais eue avec quelqu'un ou quoi que ce soit. Tout est connecté. Mmh. Et c'est la seule chose. C'est le seul filtre que j'ai. Et du coup, de l'extérieur, je pense que ça a l'air d'un joyeux bordel, mes notes, mais ça a du sens. Elles sont utiles et toutes ces idées sont ensuite transformées en quelque chose qui m'est unique à moi et que je peux partager avec d'autres personnes, avoir du feedback. Quand je reçois du feedback, potentiellement, ça revient dans mes notes. Et tu parlais de cercle vertueux avant. Bah voilà, c'est un cercle vertueux en fait, de créativité qui se crée naturellement. Il suffit d'avoir un projet, en fait.
T'as anticipé du coup ma question suivante. Parce que moi, je prends des notes aussi, depuis que j'ai découvert le second cerveau. Mais en fait, je ne les réutilise jamais. Et du coup, je commence à me dire, mais pourquoi je fais ça, quoi? Tu vois, je...
Bah oui, pourquoi? Pourquoi je prends mes notes, du coup? Mais c'est vrai, pourquoi?
Mais c'est un peu la question, tu vois. En fait, parce que souvent, je les prends parce que c'est des choses qui vont m'inspirer, tu vois. C'est une citation qui m'inspire, c'est quelque chose qui me parle, etc. Mais je n'ai pas tout de suite le tilt de me dire, ah tiens, ça va me servir pour ça. Donc, je la mets. Et comme tu dis, en fait, elle pourrit là. Donc, dans mon Notion, avant, j'avais Obsidian. J'ai des notes comme ça qui se baladent et qui sont pas complètes, qui sont des fois c'est juste un bout de phrase qui est même pas traduite. Enfin bref, tout ça pour dire que ça sert à rien en fait.
C'est le côté très satisfaisant. Moi je fais ça. Hein. Je que ce soit sur mon Kindle ou sur les bouquins papier, mm-hmm. je surligne, je fais des highlights. Ça me donne le petit côté satisfaisant. Je dis ah oh, j'adore cette phrase. Hop, c'est fait, c'est surligné. Je ne la relirai jamais de ma vie cette phrase, je le sais, mais tu vois, c'est feel good quoi de faire ça. Je surligne, je highlight. Ça ne va pas dans mes notes, par contre, parce okay. que ça n'a pas de lien avec quoi que ce soit. Et parfois, c'est sympa. Il y a peu de livres que je relis, mais quand je relis un livre et que je retombe sur des highlights que j'avais fait avant, c'est super sympa de regarder et de ne pas se souvenir du tout de pourquoi j'avais trouvé cette phrase intéressante sur le moment, mais de me dire ouais, « c'est génial, j'ai changé, je sais pas, la chose qui a connecté à l'époque ne connecte plus, mais du coup, c'est toujours un plaisir. T'as le plaisir sur le moment, t'as potentiellement le plaisir dans le futur de retomber dessus, mais sans le côté de se forcer à prendre des notes pour prendre des notes, en fait, pourquoi, si jamais il n'y a pas derrière un but vraiment de prendre ces notes. Donc, un surligneur, c'est pas mal.
Inversement, d'ailleurs, c'est drôle parce que quand tu relis des fois des livres, les trucs que tu avais surlignés, tu sais plus pourquoi tu les avais surlignés. Par contre, il y a d'autres passages que tu avais pas surlignés et tu te dis, mais ça, c'est génial, oui. Pourquoi je l'ai pas surligné?
Oui, complètement.
T'écris beaucoup d'articles pour... C'est quoi ton rythme de publication sur Nest Labs?
Pouf, là, très peu. En ce moment, j'en ai publié un aujourd'hui, mais beaucoup moins qu'avant. J'ai commencé avec 5 articles par semaine au tout début. Et c'est comme ça que ma newsletter a grossi très vite parce qu'il y avait plein de gens qui suivaient un peu l'aventure aussi. De se dire, j'avais fait un challenge de 100 articles en 100 jours. Donc, du coup, il y a vraiment plein de gens qui m'ont suivi à ce moment-là pour ça. Et ensuite, je suis passée à 3 articles par semaine, puis 2 articles par semaine, puis 1 article par semaine. Et donc là, je suis à 1 article par semaine. Et maintenant, en ce moment, j'écris plus du tout pareil qu'avant. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment écrit un article original. Mais maintenant, de temps en temps, sur plusieurs newsletters, je reprends des anciens articles que j'ai écrits il y a 3 ans et je les édite et je les réécris et je les republie en mieux parce que je trouve que c'est super utile pour mes lecteurs. Souvent, ils n'ont pas vu. Enfin, il y a plein de lecteurs aujourd'hui. Quand j'avais publié un article, quand j'avais 3000 abonnés, aujourd'hui, j'en ai 70 000 qui n'ont pas lu donc ces anciens articles. Et puis même pour moi, c'est hyper intéressant de revisiter ces idées, de remettre à jour avec des liens vers des nouveaux papiers de recherche qui ont été publiés entre-temps, etc. Et du coup, ça me prend 1 heure au lieu de me prendre 3 heures. Et donc avec tous les projets que j'ai en ce moment, c'est un petit peu plus gérable de faire ça, de mettre à jour des anciens articles.
Ok, oui, c'est très smart. Comme tu disais tout à l'heure, avec ta priorité, c'est pas ça pour l'instant. Donc il faut bien trouver des systèmes pour s'éloigner un petit peu de ça. Comment on crée 100 articles en 100 jours? C'était quoi ton... Je suis très curieux. C'était quoi ton process pour déjà trouver les idées? Parce qu'il faut trouver 100 idées d'articles. Et après, il faut les dérouler, les idées.
Alors, pour les idées, pareil que quand je te disais, une fois que tu as un projet, Les idées sont partout. Vraiment, c'est ça. Une fois que j'avais décidé de faire ça, j'avais une note sur mon téléphone. Et je pense que j'étais insupportable avec mes amis. On parlait, on allait boire une bière. Et je disais, attends, 2 secondes, je vais noter ce que tu viens de dire. Et j'étais un peu obsédée quoi, pendant ces 100 jours. À chaque fois que j'entendais sur un podcast, parfois je regardais une série. Un magazine, pareil, ouais, comme je disais, conversation avec des amis, etc. Je notais, je prenais des notes tout le temps. J'avais plein d'idées, ça n'a vraiment pas été le problème parce qu'une fois que tu es en chasse, tu en vois partout en fait. Tu les vois dans des bouquins, tu les vois, etc. Donc j'avais cette liste, donc ça, c'était pas le problème. Ensuite, tous les jours, je commençais par ça. Je m'essayais, je me faisais une tasse de café et c'est parti. Et en gros, la raison pour laquelle je pense que j'ai réussi à tenir, c'est que je m'étais mise aucune contrainte sur la longueur des articles. Le but d'un article, c'était de communiquer une idée. Mmh. Et j'ai des articles que j'ai publiés à ce moment-là qui faisaient 300 mots. 300 mots, c'est rien du tout. C'est vraiment très, très court à écrire. Mais l'idée, elle était là. Il n'y avait rien d'autre à ajouter et c'était utile. Et ça fait partie parfois de mes articles les plus populaires. Donc, en particulier, je me souviens parce que j'étais allée vérifier à un moment pour me dire c'est quoi du coup mon article le plus court. J'ai un article qui s'appelle The Generation Effect et qui explique qu'en créant ta propre version de quelque chose que tu étudies, donc par exemple en réécrivant ta propre version ou en publiant ton propre article sur le sujet ou en faisant un podcast dessus, quel que soit ton mode de création, donc en générant, c'est pour ça que ça s'appelle The Generation Effect, en générant ta propre version de quelque chose, tu vas à la fois mieux le comprendre mais aussi mieux t'en souvenir. Donc c'est un super moyen d'étudier en fait, qui est un petit peu plus fun que d'essayer de faire du par cœur. Et cet article, il fait à peu près 300 mots, même un peu moins de 300 mots, je crois, mais c'est parce qu'une fois qu'on a expliqué l'idée, mais que je ne vais pas faire du baratinage de SEO à rajouter 2000 mots juste pour remplir le truc, c'était expliqué en 300 mots. Et c'est un de mes articles les plus populaires parce que les gens trouvent le concept super utile et il n'y a pas besoin d'en dire plus. Donc, en gros, c'est comme ça que j'ai fait les 100 articles en 100 jours, c'est qu'il y a des articles où je me suis vraiment perdue pendant des heures. J'ai passé 8 heures sur certains articles, mais parce que j'étais à fond, je suis tombée dans un trou de Wikipédia, etc. Ça m'a pris toute la journée, je lève la tête, il fait nuit. et c'était génial. Et il y en a d'autres où, 300 mots, ultra rapide, voici l'idée. Et j'essayais pas forcément d'écrire sur des sujets qui étaient complètement originaux ou personne n'avait écrit dessus. J'essayais d'écrire sur des sujets qui étaient nouveaux pour moi. Donc en fait, l'article était un moyen pour moi d'étudier une question tous les jours. Donc c'était super intéressant. J'écrivais que sur des sujets où j'y connaissais rien avant de commencer à écrire l'article. Et à la fin de l'article, je savais donc du coup ce qu'il y avait sur ce sujet. Ça, c'était le principe. Et parfois, j'avais la chance d'être étudiante à ce moment-là. Comme on en parlait avant qu'on commence à enregistrer le podcast, parfois, il se passe des choses dans notre vie personnelle. On a beau avoir des systèmes, etc. Ça fonctionne pas comme on veut. On a un voyage, on se retrouve devant la porte d'embarquement à se dire « Oh zut, j'ai pas fait mon article aujourd'hui ». Et dans ces cas-là, j'allais un peu piocher dans mes cours d'université pour voir est-ce qu'on n'a pas étudié un truc cette semaine qui pourrait être intéressant, etc. Et j'écrivais un petit article dessus. Donc voilà, 100 articles en 100 jours. Et c'est comme ça, en fait, au final, que j'ai commencé ma newsletter, mon business actuel. Tout ce que je fais aujourd'hui est parti de ce petit challenge à l'époque.
Donc, tu ne tiens pas compte du SEO, c'est marrant ça, pour quelqu'un qui est basé sur l'écriture?
Non, j'ai juste un petit plugin qui me check que je n'ai pas fait de choses absolument horribles dedans, donc qui me marque en rouge si on me dit vraiment ça, il ne faut absolument pas faire. Mais sinon, non, j'écris tout à côté dans Google Docs, je fais mon truc, je le copy-paste et ensuite, en général, en deux clics, je corrige 2-3 trucs que ça me dit, surtout ne pas faire ça, ne pas mettre un lien sur le même mot que, externe, sur le même mot que tu essayes de rank pour ça, enfin, ce genre de choses. Et puis je publie. J'ai un super bon SEO score apparemment. Ça marche. Mais c'est ce qu'on m'a dit aussi, c'est qu'apparemment, les derniers algorithmes sont vraiment concentrés sur le temps passé sur la page et l'engagement que les gens ont avec le contenu, au-delà de paramètres plus artificiels en fait. Mmh. Et donc, vraiment, écrire du bon contenu que les gens trouvent utile et qu'ensuite ils partagent, c'est un moyen d'avoir un bon score SEO. Et je me suis retrouvée pas mal de fois sur Google Discover, qui est donc la page d'accueil de tous les téléphones Android.
Oui.
Et je me suis retrouvée parfois avec mon site qui a crashé, etc. Parce que Google m'a mis en Discover sur tous les téléphones Android. Et j'ai ouais, donc voilà. Donc non, je pense voilà, écrire du bon contenu utile, c'est une bonne règle en général.
C'est génial parce que j'ai eu la discussion récemment avec Valentin Decker. On parlait de l'équilibre, on a fait tout un épisode là-dessus sur l'équilibre créateur-entrepreneur, en fait. Parce que c'est quelqu'un aussi qui a écrit des articles, des fois juste pour le plaisir des articles. Tu vois, il a écrit un super long article sur le Japon. Et il parlait en fait de cette transition petit à petit où il disait je sens bien que mon business stagne un petit peu. Et donc, je vais rentrer plus dans la casquette entrepreneur, je vais faire plus de SEO, etc. Et il disait, ah, c'est intéressant parce que je prends aussi du plaisir maintenant à créer ces articles un petit peu plus SEO. Alors, sans rentrer dans les articles type première page de Google qui sont horribles, mais parce qu'il dit, ben, j'accomplis un peu mes missions d'entrepreneur, tu vois, en sortant des articles SEO, etc. Et il parlait justement de cette première page de Google. Et donc, c'est intéressant de savoir que l'algorithme, qu'ils adaptent l'algorithme petit à petit, parce qu'il est un peu temps justement que tous ces articles dégueulasses partent de Google parce que c'est pas possible quoi. Tu fais une recherche, personne en fait en général trouve l'info sur la première page, c'est l'enfer.
Ah oui, non, complètement. Toutes ces pages là elles sont pas là pour apporter des réponses à la question, elles sont là pour vendre un truc, donc non, je suis d'accord. Et pour ce que tu disais donc avec Valentin Descartes, moi je trouve ça super aussi. Je trouve qu'il y a vraiment rien de mal à être passionné d'essayer d'optimiser son SEO, etc. Ça peut être hyper intéressant. Moi, c'est pas quelque chose sur lequel je passe du temps, mais j'ai déjà passé des heures à essayer d'optimiser un formulaire d'abonnement à ma newsletter parce que ça me rendait hyper triste de voir que le taux de conversion était hyper bas quand je voyais que j'avais autant de visiteurs sur le site. Et donc, parfois, on peut tomber comme ça sur des trucs et il y a vraiment ce plaisir d'essayer de comprendre et de bien faire les choses. Et je pense que ce plaisir, on peut le diriger vers à peu près n'importe quelle tâche.
Et je pense qu'on va de toute façon vers cette ère, je ne sais pas si c'est une ère, mais en tout cas cette période où de plus en plus, ça va être favorisé d'être un créateur et d'avoir des idées originales et de se réapproprier des concepts et de faire des connexions. Bah parce que notamment avec l'IA, donc je ne sais pas si tous les auditeurs sont au courant, mais il y a une énorme vague autour de l'intelligence artificielle en ce moment. Et notamment, on en parle pour l'écriture parce que maintenant, on peut écrire un article sans écrire une ligne. En tout cas, avec un prompt d'une ligne. Et donc, je pense effectivement qu'on va aller vers ça. On va aller vers ceux qui vont être valorisés, c'est ceux qui ont des idées, c'est ceux qui ont des choses à dire, mais des choses intéressantes, pas juste des mots-clés, etc.
Quoi. Oui, complètement. J'ai quelqu'un que je connais qui avait écrit un article là-dessus et je trouvais ça hyper intéressant. Il disait, je ne sais pas si ça va être le cas, mais il disait que probablement que dans le futur, on aura un marché qui ressemblera un petit peu au marché du luxe aujourd'hui, où les gens payent vachement plus cher pour un sac à main ou une veste, etc., en sachant que c'est vraiment un artisan qui a travaillé dessus, qui l'a fait, qu'il y a eu vraiment tout un travail de réflexion sur le design. Et donc, même si les matériaux purs, techniquement, coûtent moins, pas aussi cher que ça, on paye pour toute cette histoire qu'il y a derrière. Et du coup, il disait que dans le futur, ça se trouve, on payera un premium pour dire « bah ça, non, c'est made by a human ». Et qu'on payera pour savoir que le livre qu'on est en train de lire ou le cours qu'on est en train de prendre ou etc., le service qu'on est en train de recevoir, c'est un humain qui est en train de s'occuper de nous et de nous donner cette information, nous donner ce service et pas une intelligence artificielle.
C'est fou parce qu'on arrive dans des scénarios qui étaient des scénarios de film, en fait. c'est plus si loin. Il y a une toute petite partie d'un article où tu dis relire une fois. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu cette idée de dire je relis une fois et je publie plutôt que de dire non, mais ça pourrait être mieux, il faut encore que je fasse un peu mieux la conclusion, puis après que je remette l'introduction un peu plus comme ça.
Oui, bah c'est surtout, ça dépend encore une fois du but qu'on a, mais si le but c'est d'apprendre et de grandir le plus rapidement possible. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut juste apprendre en public. Et la meilleure manière de faire ça, c'est de générer du contenu assez régulièrement et de le partager avec des personnes qui vont ensuite pouvoir partager du feedback. Donc, le plus longtemps on reste assis sur un brouillon, qu'il soit écrit ou audio ou vidéo, etc., et qu'on ne le partage pas, le plus de temps on passe sans avoir ce feedback précieux qui pourrait nous aider à s'améliorer. Donc moi, vraiment, à chaque fois, ma politique, c'était je relis une fois parce qu'il y a quand même un minimum de respect envers le lecteur, de faire en sorte que ça ne soit pas bourré de fautes, que ça ait du sens et que ça capture l'idée que je voulais communiquer. Ce n'est pas parfait, mais l'idée est là, j'ai fait de mon mieux, c'est relu et voilà, c'est publié. Et parfois, je vais avoir plein de gens qui répondent et qui disent « voilà, c'était top, j'ai appris un truc » et il y en a d'autres qui vont répondre en disant « ah, mais par contre, moi, ça, c'était pas clair » ou « attends, mais t'es sûr de ça ?» Il y a même eu une fois un article où j'ai publié et on m'a dit « mais t'es au courant qu'il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui montre que ton article est complètement faux, en fait. » Et du coup, Bah cet article, il est, je ne l'ai pas retiré, il est toujours sur Nest Labs, mais j'ai mis une note en disant, voilà, cet article, en fait, il y a une nouvelle étude qui est sortie qui montre que ce n'est pas le cas. Si tu es curieux, le sujet, c'était ce que les Anglais appellent le power posing, donc de faire des pauses. Par exemple, tu mets tes mains sur tes hanches et tu te tiens super droit et apparemment, c'est censé augmenter ta confiance en soi. Et par contre, si tu t'assois un petit peu plus recroquevillé sur toi, avec les bras fermés, tu vas... Voilà. Donc en fait, l'étude que moi, je citais, c'était donc cette étude qui est très connue et qui explique que la manière dont on se tient en termes de son corps va avoir un impact sur la manière dont on se sent dans son esprit. Mmh. Et en fait, il y a eu d'autres études qui sont sorties après qui montrent que ce n'est pas du tout le cas, qu'ils ne savent pas trop comment. La première étude a été bidouillée, mais elle a dû être bidouillée un petit peu quand même pour obtenir ces résultats parce que ce n'est pas le cas du tout et on peut avoir très confiance en soi et pas se tenir droit. C'est complètement possible. Bon, bien sûr, dit comme ça, ça paraît marrant, mais à l'époque, à cause de ce papier qui était hyper connu, il y avait des cours de power posing, il y avait des gens qui payaient vraiment. Pour... Ah oui, mais c'était un papier hyper populaire parce que les gens adoraient cette idée que simplement en apprenant à se tenir d'une certaine manière, ils allaient pouvoir développer toutes ces caractéristiques psychologiques qui sont enviables, de confiance en soi, etc. Donc voilà, donc ça c'est un exemple. D'avoir publié quelque chose qui était faux. En fait, là, c'est même pas j'ai oublié, j'ai fait une faute ou quoi que ce soit, c'est vraiment, c'était faux. Mais à partir du moment où je publie régulièrement, que je suis honnête sur le processus et que je dis aux gens, c'est pas parfait, je l'ai toujours dit, je suis étudiante. Donc en fait, je suis juste en train d'étudier ces sujets, je le fais en public avec vous. Il n'y a personne qui m'en a jamais voulu d'avoir publié quelque chose qui n'était pas forcément correct ou qui aurait pu un petit peu mieux formuler. Et moi, j'ai énormément bénéficié de faire les choses comme ça parce que j'ai appris vachement plus vite.
C'est drôle parce que ça rejoint une conversation que j'ai eue il n'y a pas longtemps, je crois qu'hier ou avant-hier, avec une amie qui a un podcast aussi. Je lui disais, c'est intéressant parce que je me suis rendu compte d'un truc avec le podcast. La contrainte de faire un podcast, enfin la contrainte, j'ai mis la contrainte entre guillemets, d'ailleurs j'en ai fait un post LinkedIn. La contrainte entre guillemets de faire un podcast, ça peut paraître compliqué de toujours produire. C'est comme, tu vois, avec toi les articles une fois par semaine, c'est une contrainte quand même. Il faut sortir quelque chose toutes les semaines. Mais en fait, cette contrainte-là, au début, elle te pousse à sortir du perfectionnisme. Parce que tu sais que si le truc que tu publies cette semaine, ben, les gens, ils trouvent que c'est moins bien que celui d'avant, ou ben, il y a un moment où tu fais feu et tu t'as pas coupé parce que tu t'es pas rendu compte, ben, c'est pas grave, en fait, parce qu'il y a celui d'après, le podcast. Et puis, ou l'article d'après, ou la newsletter d'après. Et je trouve que c'est un excellent moyen, et ça revient à une théorie que j'ai un petit peu, je sais pas si t'as un article là-dessus, mais ça m'intéresserait, sur le fait de casser des croyances limitantes par l'action plutôt que par la pensée. Je trouve qu'on ne règle pas les problèmes mentaux par le mental.
C'est le sujet de mon livre.
Ok.
Littéralement le sujet de mon livre.
Ok, bah génial. On en parlera à la fin d'ailleurs. Je veux absolument qu'on en parle. Donc voilà, ça pour dire que ça rejoint en fait cette idée que le fait de construire en public, qui est très populaire en ce moment, le fait de publier des nouvelles choses régulièrement, non seulement ça nous fait apprendre donc à produire, apprendre aussi à gérer le rythme de production, mais en plus, ça nous casse certaines croyances limitantes. Est-ce que tu as des stratégies pour optimiser la créativité? Parce qu'on l'a dit, tu es entrepreneur, mais tu es aussi chercheuse en neurosciences. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu des études qui ont été faites là-dessus?
Ce n'est pas une étude de neurosciences, c'est une étude en psychologie, mais que je trouve hyper intéressante. Mm-hmm. Et qui, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés dans des écoles et ils ont juste mesuré tout simplement. J'aime beaucoup, tu dois t'en rendre compte, les études très simples où on comprend exactement ce qui est en train de se passer et où on voit exactement ce que ça veut dire. Et donc, dans ce cas-là, ils ont fait quelque chose de très simple. Ils sont allés dans les écoles et ils ont fait ça sur plusieurs années. Et le chercheur est resté à l'arrière de la classe. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient un papier et ils notaient combien de fois les enfants posaient des questions. Okay. Why this? Pourquoi ça? Pourquoi si? Et ça? Et pourquoi la machin, elle fait si? Etc, etc. Et tu comptes, tout simplement. Et je crois que c'était plus de 100 questions par enfant quand ils étaient petits, vers l'âge de 6 ans, par jour.
Par jour?
Ouais. Oui, c'était énorme. Un truc énorme. Mais ça va, en fait, ça va vite, quoi. Si t'en poses plusieurs par heure, que t'arrêtes pas, quoi. Et t'es ça, et ça, c'est quoi? Et donc, vraiment énormément de questions. Je me souviens plus ensuite des nombres exacts, mais c'était ensuite un truc, mais un nombre ridicule. Très rapidement, à partir de l'adolescence, et quasiment plus de questions quand on est adulte. Et il y a quelque chose qui est très intéressant qui se passe, c'est que plus on grandit et plus on est censé savoir. savoir tout court, savoir comment le monde fonctionne, savoir ce qu'on est censé faire, savoir ce qu'on est censé dire, comment se comporter, etc. Donc ça, c'est sur le plan personnel. Et sur le plan professionnel, bien sûr, on se fait embaucher parce qu'on est censé savoir aussi. Donc, on est embauché pour une certaine expertise qu'on amène. Il n'y a personne qui est embauché parce qu'ils arrivent et ils disent « moi, je ne sais pas ». Et donc, même ça, c'est plus si vrai que ça parce que du coup, maintenant, grâce à ces recherches, etc., il y a maintenant des entreprises qui payent des gens pour venir et pour dire « viens juste poser des questions, en fait, parce qu'on a vraiment besoin de ça ». Mais naturellement, en tout cas, on a tendance à embaucher quelqu'un parce que la personne, elle sait faire quelque chose. Et donc, ça fait une sorte de cycle. On n'arrête pas de parler dans ce podcast de cycle vertueux et vicieux, mais là, ça fait un cercle vicieux parce qu'on essaye du coup de projeter cette image. Donc, on ne pose pas de questions parce qu'on a besoin d'avoir l'air de savoir ce qu'on fait. Et ça crée un environnement de travail, en fait, où les questions sont découragées et où avoir des réponses, en fait, c'est ça. Être un bon contributeur, c'est avoir des réponses, apporter des réponses. Donc, pour revenir à ta question de la créativité, je pense que juste la chose la plus importante qu'on puisse faire, c'est de réapprendre à poser des questions. Se réentraîner à poser des questions. Et à chaque fois qu'on remarque qu'on a tendance à sauter sur la première réponse qui nous vient à l'esprit, soit tout seul, parfois on se le fait à soi tout seul, on se dit « oh, bah, voilà, c'est ça qu'on va faire, ça fonctionne comme ça ». Parfois aussi, quand on a une conversation avec quelqu'un, on a vraiment cette envie, il nous raconte un problème, de dire « ah, mais pourquoi tu ferais pas ça, par exemple ?» Tu n'as pas essayé ça, tu as entendu parler de cette solution, en fait. Se réentraîner à faire « non, non, non ». Pas seulement écouter, c'est bien d'écouter, mais quand il y a un blanc, de poser une question derrière, et de dire, bah attends, tu peux pas, t'as mentionné ça, tu peux pas m'en dire un petit peu plus là-dessus, comment ça se fait que, etc. Et donc voilà, c'est vraiment pour moi, ça, il y a plein d'autres choses, bien sûr, il y a un champ d'études complet qui est dédié à la créativité, donc ça pourrait être le sujet d'un podcast entier. Mais si j'avais qu'une seule réponse, moi, à donner, quelque chose qui est assez simple à appliquer, c'est juste essayer de poser plus de questions. Et si vous êtes manager ou en position de leadership, pareil, pour revenir un peu reconnecté à ce dont on parlait tout à l'heure, créer un environnement de travail où c'est OK de poser des questions, c'est encouragé, c'est quelque chose qui est bien vu. Et donc, inviter ces questions quand on est dans un environnement de travail en équipe.
Donc, lancer des podcasts aussi.
Oui.
Ça permet de poser des questions et d'avoir le... Enfin, ça donne l'occasion de poser des questions.
Exactement.
Il y a un créateur sur LinkedIn notamment qui avait mis un post comme ça où il expliquait que c'était un comportement qui l'énervait justement, le fait que quand ils disent quelque chose, par exemple, oh, tiens, j'ai telle problématique, qu'on lui donne tout de suite des solutions alors qu'il ne les a pas demandées. Et que du coup, maintenant, il prévenait ses amis, un peu dans le style du manuel dont tu parlais, le manuel d'utilisation, où il disait, si je te parle de quelque chose, mais que je ne te demande pas de solution, ne me propose pas de solution, en fait. Parce que ce n'est pas le but, ce n'est pas pour ça que je t'en parle. Et je trouvais ça assez pertinent, en fait, de prévenir en gros ses amis que ce n'était pas de ça qu'il attendait, tout simplement.
Non, c'est très bien. Et puis surtout, je pense que c'est aussi mal placé de se plaindre de la réaction des amis quand on leur a pas dit ce qu'on voulait. Donc, les amis, en général, ils ont juste envie d'aider. Et si on leur dit pas, bon, bah, ils vont essayer d'aider en apportant. C'est ce qu'on fait automatiquement. Encore une fois, en tant qu'adulte, on a été programmé sociétalement à apporter des réponses. Donc, on se dit, bah, qu'est-ce que je vais faire pour aider? Je vais apporter des réponses. Du coup, non, je trouve ça super au lieu de juste de se plaindre et de dire, mes amis sont chiants, ils font ça, de dire bah, « en fait, non, moi, j'ai ce besoin, donc je vais communiquer mon besoin. » Et surprise, quand on communique son besoin, en général, la plupart des gens écoutent.
Est-ce qu'il y a des idées reçues sur la créativité que tu aimes bien casser un petit peu? Parce que, comme on disait au début du podcast, il y a certains mythes qui ont la dent dure. Est-ce qu'il y en a sur la créativité dont tu voudrais parler?
Bah, moi, surtout, celui que je retrouve le plus souvent, c'est vraiment l'idée qu'il y a certaines personnes qui sont plus créatives que d'autres. Et comme si on en parle comme si c'était quelque chose d'inné, en fait. Mm-hmm. En fait, ce qu'on voit surtout, c'est pas tant qu'il y a des gens qui ont plus de capacités créatives. Tout le monde a une capacité créative. C'est plutôt, est-ce qu'on a grandi dans un environnement où d'exprimer cette capacité créative était encouragé ou pas? Et donc, c'est limite quasiment plus une question de confiance en soi plutôt qu'une question de capacité à être créatif. Et donc, c'est ça, moi, je pense que si les gens étaient aussi un petit peu plus capables en tant qu'adultes de se rendre compte, si on pouvait leur montrer que c'est pas parce qu'ils ont grandi dans un foyer où la créativité, c'était pas forcément quelque chose qui était encouragé, ou c'est pas parce qu'ils ont fait un dessin dégueulasse quand ils avaient 6 ans et que leur prof leur a dit « toi, l'art plastique, c'est vraiment pas ton truc » ou quoi que ce soit, que ça veut dire qu'ensuite, que pour le reste de leur vie, ils sont obligés de se cantonner à des types d'activités intellectuelles qui soient purement matheuses, de type ingénierie, etc. Il y a aussi beaucoup, beaucoup d'études qui montrent que la créativité, d'avoir des activités créatives, c'est très, très bon pour la santé mentale. Quelque chose qui est super aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne coûtent pas cher du tout. Comparé à d'autres traitements, ce n'est pas addictif. Donc, c'est des activités créatives. Avoir plus d'activités créatives dans sa vie, en général, c'est quand même un plus. Et je pense que c'est très dommage qu'il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent pas ces outils créatifs parce qu'on leur a mis dans la tête, ou ils se sont mis dans la tête, mais plutôt en général, on leur a mis dans la tête que la créativité, c'était vraiment pas pour eux.
Et que ça s'apprenait pas souvent.
Et que ça s'apprenait pas.
Une réflexion que j'ai eue récemment, c'est que tu peux avoir des, entre guillemets, défauts quand tu es enfant, qui se transforme en avantage quand tu deviens grand, dans des contextes complètement différents. Je vais prendre un exemple pour illustrer. Quand j'étais enfant, on mettait tout le temps sur mon bulletin que je bavardais. Bavardage, bavardage, bavardage. En fait, bavardage, c'est vrai que c'est un, entre guillemets, un défaut à l'école, parce que tu discutes avec les copains, donc les autres, ils écoutent moins, etc., etc. Mais bavarder dans un podcast, c'est une bonne chose. ou bavarder, enfin, être capable d'être à l'aise socialement quand tu fais, je sais pas, du networking, quand tu fais des conférences, c'est une bonne chose aussi. Donc en fait, selon le contexte, un défaut se transforme en qualité. Et malheureusement, je trouve que quand on est enfant, des fois, et c'est pas que de leur faute, mais les profs ont le jugement assez facile sur certains traits de caractère. Alors qu'en fait, ces traits de caractère-là, c'est juste qu'ils ne sont pas utilisés dans le bon contexte.
Oui, complètement. Et d'ailleurs, on le voit même aujourd'hui où il y a de plus en plus d'enfants qui se font, ça se dit médicamentés qui se font...
Je pense que ça se dit en français, ouais.
Parce que ils ont des soi-disant des troubles de l'attention et des difficultés donc à rester immobile. ADHD en anglais, je ne sais pas comment ça se traduit en français, ce qui fait partie de mon sujet de recherche pour mon doctorat et qui est vraiment qui est une vraie différence qu'on a au niveau neurodéveloppemental. Donc c'est une vraie différence qu'on a, mais il y a beaucoup de gens qui se sont diagnostiqués. Parce que en fait, aujourd'hui, on a créé un environnement où on demande à des enfants de rester pendant 2 heures de suite assis, sans parler, à regarder dans la même direction, et de surtout ne pas poser de questions, ne pas regarder à droite, à gauche, etc. Et où du coup, on a des enfants qui, dans un autre environnement, en fait, seraient considérés comme curieux, comme engagés, comme exploreurs. Etc. qui sont oui comme on dit bavardage, ils n'arrivent pas à bouger, etc. au point même où ils ont vraiment un vrai problème aux États-Unis. Il y a plein de gamins qui se font traiter pour leurs troubles de l'attention, qui en fait c'est à se demander où ça s'arrête, en fait, à quel moment c'est l'environnement et à quel moment il y a vraiment un problème chez l'enfant. Et donc voilà, c'est tout un autre sujet, mais cette limite très poreuse entre qu'est-ce qui est l'environnement, qu'est-ce qui est la personne, et à quel moment on commence à dire que c'est la personne le problème au lieu d'essayer de régler les problèmes de l'environnement, de la manière dont il a été designé. C'est une super grande question. Et ouais, il y a des choses assez dommages en train de se passer en ce moment.
Je crois que c'est TDAH en français.
Merci. Je me souviens jamais de l'ordre des lettres en français.
Et c'est marrant que tu donnes l'exemple des États-Unis parce que j'étais à Montréal pendant 3 ans et je me souviens d'une cliente, je crois qu'elle avait 18 ans ou 20 ans. Et en fait, je crois qu'elle était traitée justement pour le TDAH depuis qu'elle avait 11 ans, un truc comme ça. Qu'elle avait 20 ans, ça faisait quasiment 10 ans qu'elle était sous médoc pour un truc où en fait, ben, je peux pas juger après de sa vie, mais à la salle, elle avait pas l'air complètement distraite tout le temps, etc. Enfin, donc ouais, c'est assez ouf que ça devienne un fléau comme ça, enfin qu'on médicamente aussi facilement sans tenir compte du contexte, comme tu dis, ou peut-être des besoins d'un enfant qui sont autres peut-être que de rester 2 heures sur une chaise par cours multiplié par le nombre de cours qu'ils ont dans la journée, quoi.
Exactement. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que le TDAH n'existe pas, mais le fait que maintenant on en soit à des taux de diagnostic de 15% ou quelque chose comme ça sur des enfants très très jeunes. On leur donne de la Ritaline. Enfin, c'est assez choquant. Et on va voir comment ça évolue. Mais c'est hyper intéressant. C'est tout le concept de la recherche que je fais, qui est en neurodiversité. Mais c'est vraiment l'idée de dire, est-ce qu'il y a d'autres manières d'approcher le problème que les médicaments, en fait ? Est-ce qu'on ne peut pas travailler sur l'environnement pour l'adapter aux gens plutôt que d'essayer de forcer les gens dans un moule qui n'est pas naturel pour eux ?
Tu peux préciser du coup neurodiversité?
En fait, le concept de neurodiversité, c'est d'étudier, donc c'est à la base, ça vient d'un mouvement social, mais donc nous, maintenant, en recherche, c'est l'idée de considérer les différences en termes de développement de cerveau comme naturelles, de dire qu'il y a des variations en fait, naturelles qui sont toutes utiles à la société. Qu'on va avoir donc des personnes qui réfléchissent différemment, qui voient le monde différemment, qui évoluent dans le monde de manière différente, et que le concept de handicap, en fait, ne vient pas de la personne, il vient de la manière dont la société est faite aujourd'hui. La société crée un handicap où il n'y en a pas particulièrement chez la personne. Donc, si je peux te donner un exemple du côté handicap physique, par exemple, donc quand on dit on peut dire quelqu'un est handicapé, ils sont en fauteuil roulant, mais en fait en réalité les escaliers, il n'y en avait pas à la base ici, et donc cette personne n'avait pas forcément besoin d'avoir ensuite un monte-charge, etc., pour pouvoir naviguer. Ben là c'est pareil, en fait, moi en particulier j'étudie l'apprentissage en ligne, et on se rend compte que du coup il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés en apprentissage en ligne parce que leur cerveau est fait de manière différente. Donc moi, ma recherche, c'est de dire, en fait, au lieu de leur donner des médicaments pour qu'ils arrivent à se concentrer et à écouter un cours de 2 heures sur Zoom, peut-être qu'en fait, c'est le cours qui est mal fait et qu'il y a peut-être des manières de changer les designs et les technologies qu'on utilise pour que tout le monde puisse profiter de ces expériences d'apprentissage sans avoir besoin de prendre de médicaments.
Tu vas te faire des amis chez les profs.
En fait, au final, non, ça se passe super bien. Je bosse beaucoup avec des profs. On se rend compte que très souvent, en fait, c'est vraiment pas le choix des profs d'enseigner comme ça. Si c'était vraiment leur choix et qu'ils avaient toute la liberté, il y a beaucoup de profs qui enseigneraient pas comme c'est fait aujourd'hui.
Ouais, ça, ils ont des contraintes. On oublie souvent qu'ils ont des contraintes et des programmes qui débordent et du coup.
Exactement. Ouais.
Avant de parler de ton livre et de finir, on a ouvert avec une citation, donc je vais finir avec une autre citation. Les illettrés du 21e siècle ne seront pas ceux qui ne savent ni lire ni écrire, mais ceux qui ne savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. Pourquoi ça te parle, cette citation-là ?
Alors déjà, j'ai une annonce hyper triste à faire, c'est que je me suis rendu compte avant-hier que ce n'était pas une vraie citation exacte, parce que j'ai voulu la mettre dans mon livre, et donc du coup, je suis partie à la chasse, etc. Et elle n'est pas fausse dans le sens où elle a été reformulée, etc. À la base, elle disait, elle parlait des hommes en particulier, men en anglais. Okay. Et du coup, elle a été reformulée pour la rendre un petit peu plus inclusive de tout le monde. Et en plus, c'est un mix de différentes sélections, etc. Mais bon, l'idée a été formulée par l'auteur d'une manière un petit peu différente. Mais j'étais un petit peu triste, sachant que j'ai ça sur ma bannière sur Twitter depuis 4 ans. Et je viens de me rendre compte que du coup, c'est pas exactement sa citation. La raison pour laquelle ça me parle, elle est très similaire à la raison pour laquelle j'aime beaucoup la BD qu'on a mentionnée au tout début de cette conversation. C'est vraiment l'idée pour moi qu'on peut vivre beaucoup de vies différentes au travers du temps qu'on passe ici, et que cette capacité de se réinventer, de ne pas s'accrocher au savoir qu'on a acquis comme s'il faisait partie de notre identité, pour moi, c'est la vraie clé de vraiment s'éclater au maximum pendant le temps qu'on a à passer ici. Et je pense que, encore une fois, pour revenir à ce que tu disais sur les Infinite Games, les jeux infinis au début, si jamais on développe ce goût pour l'apprentissage, mais aussi l'idée ensuite de désapprendre ce qu'on a appris, donc d'abandonner les idées qui ne nous sont plus utiles, pour ensuite en réapprendre d'autres qu'on trouve à nouveau utiles, on se crée en fait un jeu infini où tous les jours, on se réveille, on se dit « bon ben voilà, qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais désapprendre aujourd'hui ?» Et c'est impossible de ne pas s'amuser en fait quand on approche la vie de cette manière-là.
Comme un enfant qui apprendrait un nouveau jeu et qui serait super enjoué parce qu'il n'a jamais joué et que du coup, il veut apprendre absolument.
Exactement. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on pourrait apprendre des enfants, je pense.
Complètement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton livre du coup, parce qu'on a effleuré un peu le sujet ?
Oui, donc je vais écrire un livre sur ce que j'appelle en anglais « mindful productivity ». Donc le concept de la productivité en pleine conscience, et le concept qu'il est complètement possible d'être ambitieux, d'avoir des objectifs qui nous dépassent un petit peu, mais tout en prenant soin de sa santé mentale. Et du coup, on a un petit peu parlé tout à l'heure, mais ça passe beaucoup par l'action et la réflexion. Je parle beaucoup de cycles, d'ailleurs, dans ce livre. Peut-être pour ça qu'à chaque fois, ça n'arrêtait pas de ressortir dans cette conversation. Mais vraiment, l'idée d'explorer nos projets, la vie, nos relations, tout en fait, en expérimentant et en se posant une question et en se disant qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre. C'est parti, voici mon protocole, voici ce que je vais essayer de faire, on va voir ce qu'on va apprendre et ensuite de voir si on a envie de continuer ou pas. Et c'est à la fois basé sur beaucoup de recherches en psychologie, en neurosciences, en études comportementales, à la fois chez les animaux et chez les êtres humains. C'est aussi basé sur beaucoup de philosophies, à la fois grecque ancienne, bouddhiste. Et c'est basé sur mon expérience personnelle parce que c'est comme ça que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Écrire 100 articles en 100 jours, me relancer dans la recherche académique, apprendre à coder. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie comme ça en me disant « Allez, c'est parti, je me lance. C'est juste une expérimentation de quelques semaines et on verra à la fin si ça me plaît ou pas. »
Excellent. Et ça sort ?
Normalement, octobre 2024.
Ok. On va passer aux questions de la fin. Si tu pouvais dîner avec une personne morte ou vivante, ça serait qui ?
Stephen Hawking, le physicien. comme il le même métier qu'Einstein.
Je pense que moi je dirais physicien, mais c'est peut-être tout complètement faux.
Non, mais c'est ça, je crois. Mais c'est ça. En fait, ça m'embrouille parce que physician c'est médecin en anglais et physiciste c'est physicien en français. Donc ok. Donc physicien. Donc voilà, Stephen Hawking. Qui a eu une vie absolument fascinante, qui avait un esprit complètement fascinant, que j'aurais pu rencontrer à un moment donné, mais j'ai préféré partir en vacances avec mes amis à ce moment-là, et il est malheureusement décédé peu de temps après ça. Et donc, c'est un de mes grands regrets, c'est pas un regret parce que j'ai passé des super vacances, mais c'est si jamais on me proposait de dîner avec n'importe qui, absolument n'importe qui, ce serait lui.
Est-ce que tu as une croyance impopulaire ?
C'est toujours cette question, elle est tellement dure parce qu'il faut trouver quelque chose qui est impopulaire, mais pas non plus, genre tu vas te faire lyncher.
Oui, complètement. Donc on passe à la suite. Qu'est-ce que tu me conseillerais de recevoir sur ce podcast ?
J'ai plein d'idées là, le problème c'est que j'en ai plein. Il y a une amie à moi qui s'appelle Steph Smith, qui est super intéressante et qui a aussi eu une carrière qui n'est pas du tout comme la mienne, mais qui suit des principes assez similaires où elle a vraiment changé de carrière plein de fois. Et à chaque fois, elle a vraiment suivi sa curiosité. Elle bosse maintenant. Elle est d'ailleurs head of podcasting maintenant à... tu ne peux pas prononcer leur nom. C'est le fonds d'investissement A16Z. Andrew Isovonovitz, je ne sais pas, imprononçable. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont une abréviation pour leur nom. C'est un des plus gros fonds d'investissement du monde entier. Elle est head of podcasting là-bas. Avant, elle bossait pour la newsletter The Hustle. Et avant ça, elle était directrice pour une boîte de remote working avec des ingénieurs. Elle a fait plein de choses. Elle est super, super, super intéressante. Donc, je dirais Steph Smith, même si j'ai plein d'autres idées, mais ce sera elle pour ma réponse.
Génial, génial. J'irai voir, je ne connais pas du tout, j'irai voir un petit peu son profil. Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver, suivre ton travail ?
Le plus simple, c'est d'aller sur mon site, nesslabs.com. NESSLABS.com. Et sinon, je suis sur Twitter. Si vous cherchez mon nom sur Twitter, je suis assez active là-bas, peut-être un peu trop même.
Merci beaucoup, Anne-Laure, d'avoir pris le temps, parce que je le répète encore une fois pour les auditeurs qui auraient skippé jusqu'à la fin. Tu es en train de préparer un doctorat, tu écris un livre, tu as une entreprise à faire tourner avec des employés. Je ne sais pas comment tu fais, mais merci d'avoir pris une heure et demie pour l'anti-school.
Merci, c'était super sympa.